franceinter.com. Ça vous dérange ? Thomas Chauvineau.
C'était il n'y a pas si longtemps, 36 ans. Il y a 36 ans, l'infidélité était encore en France considérée comme un crime et l'infidèle un criminel. Alors, bien sûr, aujourd'hui, les choses ont changé, les magazines féminins osent des questions incroyables. Et si je prenais un amant ? Des sites internet de rencontres entre hommes et femmes mariés se montent à l'appel et on trouve toujours des écrivains qui, ça et là, en font l'éloge. Mais derrière cette apparente libéralisation surnagent encore des mots comme culpabilité ou trahison. Et puis, il y a des incohérences. Une récente enquête sur la sexualité des hommes en France le montre. 80% d'entre eux considèrent la fidélité comme une valeur essentielle, mais 40% avouent avoir déjà été infidèles. Les ébats du 5 à 7, c'est le débat d'aujourd'hui, mais exceptionnellement entre midi et 13h sur France Inter.
Ça vous dérange ? 01 45 24 7000 ou sur franceinter.com.
Et avec nous pour en discuter ce midi, Françoise Saint-Père, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et puis théoricienne, papesse même de ce qu'on appelle le polyamour. Hein. Alors on verra évidemment ce que c'est. Nous serons également au téléphone avec Agnès Walsh qui a publié une passionnante histoire de l'adultère. Objet d'histoire, donc l'infidélité est aussi un objet de recherche sociologique. Et la preuve, un sociologue s'intéresse à la question. Françoise Saint-Gly, bonjour.
Bonjour.
Et puis l'infidélité, comme quoi c'est un thème qui finalement rassemble. On a également un psychiatre avec nous, Philippe Brenaud, bonjour.
Vous êtes... Oui, bonjour.
Président de l'Observatoire international du couple. Alors comme c'est l'été, on a décidé d'ouvrir chaque jour l'émission avec une citation, évidemment en fonction du thème. On ne sait pas si on va réussir à tenir le mois entier comme ça, on verra bien. La citation du jour, donc, on la doit au psychanalyste Lucien Israël, qui était disciple de Lacan, et qui dit « Seuls les paranoïaques sont convaincus de la fidélité de leur femme ». Alors, quand est-ce que ça commence, l'infidélité ? Françoise Saint-Père.
Il m'est difficile de parler de l'infidélité parce que j'ai réfléchi en pensant à ce qu'était la fidélité. La fidélité, la confiance qu'on peut avoir dans un ou plusieurs partenaires et puis le fait de pouvoir accepter de n'être pas l'unique tout en étant sûr d'être aimé. Donc pour moi, je suis absolument pour la fidélité, mais je ne comprends pas pourquoi on l'assimile à l'exclusivité sexuelle qui est tout à fait autre chose.
Mmh. Philippe Brenaud, vous avez publié un livre, une enquête hein, toute récente sur la sexualité des hommes. Les hommes, le sexe et l'amour, c'est le titre du livre. Et dans ce livre, il y a une anecdote d'une femme qui découvre que son mari est sur Internet et elle le considère le surf de son mari qui dragouille sur Internet, sur des sites de rencontres, comme déjà une infidélité, une forme d'infidélité.
Oui, on va en parler, l'infidélité a de multiples formes. Et là, lorsque vous disiez, Thomas, quand est-ce que commence l'infidélité ? Moi, je pensais tout de suite dans l'histoire. Dans l'histoire, on vous raconte que la première infidélité, c'est Ève avec le serpent. Enfin, on a l'impression que l'histoire va... Oui, l'infidélité a existé dès l'origine, ou plutôt... Le mariage va s'être instauré pour essayer de canaliser l'infidélité et essayer d'assurer à l'époque une filiation sûre.
Mmh. Donc c'est le seul moyen d'être certain
hommes,
que l'enfant était de soi. Hein,
c'est-à-dire des hommes ont pris possession au début de l'humanité, parce que ça n'existe pas du tout comme ça dans le monde primate, ont pris possession des femelles, peut-être pour cela, mais en tout cas pour assurer une fidélité. Alors après, à partir de quoi commence l'infidélité ? Pendant très longtemps, on le voyait dans les couples, c'était le rapport sexuel, la pénétration. Mais l'infidélité, lorsqu'on s'interroge, lorsqu'on s'adresse aux hommes, on s'adresse aux femmes, on n'a pas du tout la même réponse. Et on va le voir aussi, la sanction morale n'est pas du tout la même pour les uns et pour les autres, et suivant les générations.
Mais ce que vous dites, d'ailleurs, François de Saint-Gly, vous qui êtes sociologue, c'est qu'aujourd'hui, on parle plus de fidélité affective que d'infidélité sexuelle.
Quand les résultats sont... quand on demande fidélité, c'est des entretiens et tout, il y a quand même fidélité sexuelle. Non, ce qui est intéressant, c'est de revenir justement à la norme de départ. La norme, parce qu'il faut la poser, la fidélité est une norme imposée aux femmes, mais elle n'est pas imposée aux hommes. Parce que le problème de la sécurité de la filiation n'a pas besoin pour les hommes, parce qu'ils faisaient, entre guillemets, des bâtards à l'extérieur, donc ce n'était pas un problème. Parce qu'il y avait filiation légitime. Donc c'est une norme imposée aux femmes. Et l'histoire du XXe siècle, ça va être en partie l'essai de Léon Blum du mariage. Il essaye de faire en sorte qu'avant le mariage, en tout cas, les femmes aient accès à une vie sexuelle. Donc c'est aussi associé à cette Il y a toujours un double enjeu. Il y a le problème de l'exclusivité sur lequel on va revenir. Et puis, il y a quand même une question de genre, d'homme-femme, qui est quand même totalement centrale. Hein.
Puis on reviendra aussi sur l'histoire de l'infidélité avec Agnès Valls tout à l'heure au téléphone. Mais on parlait de sites internet. Alors, il y a pléthore de sites internet, des sites qui permettent des rencontres entre hommes et femmes mariés exclusivement. On m'a parlé ce matin d'un site qui s'appelle, je ne sais pas si vous le connaissez, révèlelescocus.com. Alors là, il s'agit de dénoncer le cocu qu'on connaît. Alors, je ne sais pas si c'est histoire de récupérer des adresses pour faire suite à un mailing qu'on pourrait vendre à des sociétés privées, ou si c'est véritablement un site qui entend, comme il le prétend, hein, en continuant comme ça, c'est ce qu'on peut lire une fois qu'on a dénoncé, ce que nous on a dénoncé ce matin, une fois qu'on a dénoncé, on peut lire, en continuant comme ça, vous allez pouvoir rendre le monde meilleur. Et puis il y a aussi soscocu.org, là qui est un kit de survie qui nous apprend à quoi faire quand on est trompé, sans compter les sites qui permettent de réserver des hôtels à la journée. Enfin bref, il me semble quand même que Internet permet aujourd'hui de nouvelles facettes d'infidélité, non ?
Oui, oui, c'est vrai.
Philippe Bruno.
Alors, à la fois permet des facettes de fidélité et d'infidélité. Et on se rend compte que, suivant le degré, non pas de tolérance, de compréhension, on voit, moi je vois des urgences de couples, puisque ma pratique est de voir quotidiennement des couples depuis assez longtemps. Il y a très peu d'urgences de couples. Moi je dis, même dans l'absolu, il n'y en a pas. Mais je les vois lorsque le couple va extrêmement mal. C'est en général une femme qui a découvert que son homme était sur le net. Tout simplement une page restée sur Internet, qui est une page, par exemple, d'un site porno, mais cela étant vécu comme une infidélité. C'est-à-dire, tu es en train de t'exciter avec une image féminine qui n'est pas moi. Donc, vous voyez, c'est pas que la tolérance. Beaucoup de choses sont changées. Alors, François de Singly a dit très justement que tout se passait par rapport à la fécondité. Jusque dans les années 1970, on est dans une société de fécondité. C'est-à-dire que ça va être, et même... François, ce que vous disiez, c'était aussi, si on regarde bien, les sœurs dans le clergé étaient astreintes à une... comment on appelle ça, pardon ?
Un vœu de chasteté.
Un vœu de chasteté, tandis que les prêtres n'avaient qu'un vœu de célibat. C'est-à-dire qu'on a toujours distingué quelque chose du côté de la fécondité pour la femme, et depuis l'instauration de la pilule, c'est-à-dire elle est popularisée en 1980, eh bien, à ce moment-là, on va parler d'infidélité sexuelle, amoureuse, et ça se déplace sur quelque chose qui est de l'ordre du jugement moral à l'autre, envers l'autre. Et en définitive, il va y avoir des quantités de définitions. Il y en a qui acceptent, on va en parler, mais il y en a qui acceptent même le rapport sexuel, pourquoi pas, avec quelqu'un d'autre, dans la mesure où tu me conserves un sentiment amoureux. Oui. Et puis il y en a d'autres, c'est même inacceptable. Donc il va y avoir beaucoup de définitions, mais qui ne seront plus sur le plan de l'exclusivité de fécondité.
L'infidélité, c'est donc le thème du débat du midi. On attend vos réactions par courriel, franceinter.com. Le site a d'ailleurs sorti ses habits d'été. Allez y faire un tour. Et puis le téléphone 01 45 24 7000, midi 15 sur France Inter. C'est Mosimo qu'on écoute. Je voudrais être un fleuve.
Je voudrais être un fleuve au fond d'un ruisseau, au ventre de la terre, avec le ciel dans l'eau, tous deux cristal fleuris dans l'herbe mentholée, au début d'une vie sans question ni regret. Oui, devenir un fleuve sous les ponts de pierre.
Ça vous dérange ? Thomas Chauvineau.
Et on parle d'infidélité ce matin. Il y a un livre donc, dont j'ai déjà parlé, hein, de Philippe Breno, qui vient de sortir, qui s'appelle « Les hommes, le sexe et l'amour ». Et dans ce livre, Philippe Breno, j'ai lu cette phrase. « L'homme et la femme ne sont pas faits pour avoir une sexualité de couple longue durée. Ils ne sont pas programmés pour ça. » Alors, vous êtes psychiatre, anthropologue. J'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu ce que ça signifie. Nous ne sommes pas programmés pour avoir une sexualité de longue durée.
Si je regarde notre parenté biologique, en tout cas, je ne connais pas chez les mammifères proche d'abord de couple, parce que c'est pas organisé comme ça, et que nous soyons programmés pour une vie de longue durée, ça c'est le fantasme occidental contemporain. Vivre une vie passionnelle, même pas amoureuse, passionnelle de longue durée. Et on n'est pas fait pour ça parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont nous en empêcher. Notamment, il y a une atténuation du désir dans le couple, c'est vrai. Et beaucoup de couples vivent très mal le fait, alors qu'ils sont tout à fait normaux, que d'avoir moins de désir, de faire l'amour moins fréquemment et différemment. Et c'est vrai que nous ne sommes pas directement faits pour ça. Par contre, si nous savons, parce que c'est ce que nous désirons, de vivre la majorité des gens actuels désirent vivre un couple de longue durée. Si nous savons que ce n'est pas possible, là, on va peut-être y arriver. Tandis que si on se laisse aller à quelque chose, ben, c'est normal, c'est naturel. Vraiment, il y a quelque chose, entre guillemets, qui est casse-gueule, parce que le couple va se trouver avec des grandes difficultés, même sur un plan physiologique. On n'a pas la même sexualité, hommes et femmes. Et puis après, il y a sur le plan moral, de l'évolution, quand on reste assez longtemps ensemble, de l'évolution des sentiments, des liens entre nous.
Et alors quoi, il suffit de le dire pour aller mieux ?
Non, François, mais je crois que de toute façon, un couple, certainement, il se construit au départ sur une attirance sexuelle, ce qu'on appelle la phase hormonale passionnelle. Mais heureusement, la nature est bien faite. Ces hormones s'atténuent petit à petit. Parce que si on restait dans la passion hormonale, jamais on n'aurait de projet de couple. Parce qu'on passerait tout son temps à faire l'amour. Donc on n'aurait pas envie ni de travailler, ni d'avoir des enfants, ni d'avoir des amis, ni d'avoir une vie sociale. Donc c'est très, très bien.
On ne pense pas qu'à ça quand même.
Voilà. Non, mais c'est très bien le fait que le désir sexuel, ou plutôt que la passion, ne se confonde pas avec l'amour. Le couple, c'est quand même un projet de vie sur un regard commun sur la vie. Et c'est ça qui est important. Interroger les vieux couples. Moi, j'interroge beaucoup des gens qui sont ensemble depuis 40 ans, qui ont vécu beaucoup. 90% avouent qu'à un moment donné, ils ont pu avoir une liaison ailleurs, amoureuse ou simplement ponctuelle. Mais tous disent, mais à aucun moment, je n'ai voulu quitter ma femme. Et quand il y en a qui ont divorcé parce que cette infidélité s'est découverte, ils le regrettent. Parce qu'en fait, leur rêve, c'est quand même de construire un projet de vie. Et je crois qu'on a beaucoup plus de mal à trouver quelqu'un avec qui on se dit, tiens, avec celui-là, je pourrais avoir un projet de vie durable, que quelqu'un avec qui on puisse faire l'amour avec plaisir. Ça, il y en a pléthore.
Mais dans ce cas-là, il y a comme une incompatibilité entre ce que dit Philippe Breno et ce que vous dites, vous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir à la fois le désir d'un autre, puisque nous ne sommes manifestement pas faits pour avoir une sexualité de longue durée, et puis en même temps l'idée de construire dans la longueur.
Si, justement, avec les amours pluriels, c'est exactement ce qui se construit en ce moment.
Alors, les amours pluriels, c'est un peu votre cheval de bataille, si on peut dire ça comme ça.
Est-ce que vous, c'est pas un cheval de bataille.
Vous expliquez en deux mots ce que c'est.
En deux mots, eh bien, c'est que le couple monogame exclusif, comme le disait Philippe tout à l'heure, c'est une construction du monde occidental. Il y a un tas d'autres endroits, d'ailleurs, où on ne vit pas comme ça. Et il arrive quand même à créer du malaise, puisqu'un certain nombre de personnes soit divorcent, soit se sentent mal dedans, soit trompent leur conjoint avec culpabilité. Et donc, en fait, les pluriamoureux, moi je préfère dire pluriamour que polyamour, pour des raisons sémantiques, les pluriamoureux simplement se mettent face à la réalité. Ils ont, comme tout le monde, envie de construire un couple, c'est quand même une expérience existentielle assez intéressante, mais ils savent aussi que se dire à 20 ans ou 25 ans, à partir de là, tu n'auras plus le droit de regarder ailleurs, moi je trouve ça terrifiant comme phrase, c'est tu deviendras aveugle, tout ça, ça n'est pas possible parce que c'est l'ouverture au monde de regarder ailleurs. Donc ils se disent, au fond, il est normal de pouvoir, au cours d'une vie, ressentir des liens affectifs, sexuels, intellectuels, les trois ensemble ou simplement deux, et que pourquoi rompre un couple dans lequel on se sent bien, alors qu'en définitive, rien ne nous y oblige.
C'est très vrai qu'on va, et heureusement, c'est normal d'avoir du désir ailleurs. Parce que je vois souvent des couples qui viennent, ils ont 35 ans tous les deux, ils disent il y a moins d'attirance. Oui, mais c'est vrai que quand on parle avec eux dans le détail, oui, je me suis interdit de regarder toutes les autres femmes, je me suis interdit de regarder tous les autres hommes. Là, c'est vrai que le refoulement du désir, c'est pas une chose extraordinaire. Je crois qu'on peut être bien même, c'est normal de désirer et telle personne peut m'attirer. Et puis, les solutions, moi, je crois, sont, depuis la fin de la société traditionnelle en Occident, les solutions sont multiples.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire qu'on voit des quantités de
c'est-à-dire
formes.
Pour vous, la fin de la société traditionnelle en Occident,
1970, c'est les sociologues d'accord. qui le disent bien, il y a un changement.
François Tsangli, vous confirmez ?
Bon, pas alors, du tout, bien évidemment. Non, pour le plaisir, quand même.
Ouais.
Un certain nombre de sociologues est quand même grand. Hein.
Ouais.
Je veux dire, Ulrich Beck, Guidens et tout. Non, il y a une première période de la modernité dans laquelle, en fait, la modernité, c'est l'introduction de la logique amoureuse.
Oui.
Parce que l'adultère n'a rien à voir avec l'amour.
Début du 20e siècle.
Et donc, ça, on est début 20e.
D'accord.
Et là, on pense que amour et mariage vont se coller.
Absolument.
Donc, on est effectivement
oui,
dans un
pas
projet
le cas jusqu'à présent. Avant,
et donc,
on se mariait absolument
donc, ça,
pas
c'est
par
une
amour.
Invention effectivement récente. Et puis, à partir des années 60, mais moi, je ne l'appelle pas tradition la première période. appelle modernité. Hein, on rentre
d'accord.
effectivement dans une période où il y a plein de dissociations. Il y a la dissociation dont on a parlé juste titre, sexualité et amour, d'autres rythmes et tout. Et donc, on est dans quelque chose, ce qui est vrai, qui est... Il n'y a pas une reconstruction évidente. Donc, je pense qu'il y a... Moi, quand même, une des choses qui me fascine le plus, c'est que... Et dans les entretiens et dans les sondages, si on prend même après 68, avec, etc., c'est pourquoi il y a quand même un attachement. Donc, il faut me l'expliquer. Pourquoi il y a un attachement quand même au mot « fidélité », y compris « fidélité sexuelle ». C'est-à-dire que quand on donne aux gens des listes de qualité... avec plein de listes, hein, je l'ai fait plusieurs fois et tout. Alors, les hommes peuvent la mettre des fois en deuxième... par rapport au... Non, mais des fois, il y a un petit peu de variation. Mais enfin, il y a plein de choses. Si on prend l'exemple des femmes, les femmes demandent un homme fidèle, elles ne demandent pas un homme, par exemple, égal pour les tâches domestiques.
En tout cas, c'est sûr. C'est
ça fait des variations énormes. Donc, on pourrait dire que dans l'idéal, elle pourrait très bien... ça ne coûte rien de dire « je ne veux pas l'être ». Donc, il y a quand même à expliquer... Et je pense que c'est pas parce qu'on
soit Saint-Père à un début d'explication.
Enfin, c'est pas un début d'explication.
Moi aussi, j'en ai. Hein.
Oui. C'est pas
moi
un début d'explication, mais c'est une.
Ça tombe bien.
C'est juste une remarque, c'est que même si vous interrogiez des pluriamoureux, ils mettraient la fidélité comme quelque chose d'important, si ce n'est qu'ils ne mettent pas dans la fidélité le contenu exclusivité sexuelle. Ils mettent le contenu relation de personnes à l'écoute qui ont envie de durer ensemble, qui justement, quand ils ressentent un désir extérieur, essayent de comprendre, d'expliquer, de voir comment tout ceci peut se débrouiller, parce que ça n'est pas simple. Et j'en profite pour dire d'ailleurs que je ne pense pas du tout qu'il faille remplacer la monogamie par le pluriamour. Ce que je conteste, c'est qu'on dise ben voilà, le couple monogame exclusif est le modèle dominant. C'est plutôt de dire que justement, comme vous le disiez Philippe, il y a maintenant de multiples façons d'inventer sa façon d'être en couple ou d'aimer. Et que c'est cette multiplicité qui permettra de répondre peut-être aux interrogations.
C'est-à-dire qu'il y a, il y a de nombreuses manières d'être ensemble. Mais quand on regarde, alors on y reviendra même tout à l'heure parce que je ne veux pas l'aborder maintenant, lorsqu'on pose des questions, par exemple, sur la fidélité, on voit des grandes différences selon les générations. Dans mon travail, qui est sur plus de 2000 hommes, qui sont en couple, le plus jeune a 16 ans, le plus âgé a 80 ans. Dans la tranche 16-35, 35-50 et plus de 50 ans, eh bien, on voit une grande différence. 80% des plus jeunes, donc des moins de 35 ans, considèrent la fidélité comme la chose la plus importante. C'est une génération post-sida. C'est aussi une génération qui est depuis moins longtemps en couple que ceux que j'interroge et qui ont 50 ans. Mais on se rend compte qu'il y a de multiples manières d'être ensemble. Mais si on regarde d'autres items complètement autres que ça, les fantasmes, parce que mon travail, il est sur la sexualité, les relations, les fantasmes, par exemple. Premier fantasme de tous les hommes, puisque ça, c'est l'étude homme et l'étude femme, je suis dessus actuellement. Premier fantasme, c'est le multipartenariat.
Tout à fait.
Mais la majorité des hommes disent pas forcément vouloir le vivre. C'est-à-dire que de très loin vient le triolisme, le multipartenariat. Et alors, vous avez plusieurs façons de le réaliser. On peut le réaliser dans la réalité. Certaines personnes qui le réalisent en permanence dans la réalité sont pas forcément bien. Il y a des gens qui le réalisent dans la réalité, mais qui ont des raisons personnelles de leur histoire à le réaliser, et c'est pour ça qu'ils sont bien. Et je vous raconte une histoire magnifique d'une femme extraordinaire que j'ai rencontrée il y a une dizaine d'années, qui est décédée maintenant. Elle s'appelait Florette. Elle avait 80 ans quand je l'ai rencontrée. C'était la femme de Jacques-Henri Lartigue, le grand photographe. Et Florette, à 80 ans, une dame merveilleuse, me raconte, quand je rencontre Jacques-Henri, On était en 1950 à Saint-Germain-des-Prés. Il me dit, tu sais, on est vachement bien, mais moi, il me faut plusieurs femmes. Je suis polygame. Et il raconte. Et elle dit, cet homme, je l'aimais tellement que je lui ai dit, je serai toutes les femmes pour toi. Elle s'est débrouillée. Elle me racontait qu'elle venait. Elle se transformait. Elle venait le voir différemment. Elle avait des attitudes. Et il n'est resté qu'avec elle toute sa vie. Alors ça, c'est
Est-ce qu'on en est bien sûr?
Ça, c'est une autre manière.
Pardon d'être prosaïque.
Mais que je trouve très belle et que j'avance souvent à des gens, justement. Parce que la grande difficulté de vivre le couple très longtemps, eh bien, ça va être la monotonie de la personne qui est en face. Même si c'est la personne aimée. C'est intéressant, cette idée d'être toutes les femmes pour toi, d'être tous les hommes. Bien sûr qu'on sera, on est soi-même, mais je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre, si vous voulez, il y a une atténuation des signaux amoureux, des signaux sensoriels, par la présence très longtemps, pour laquelle, biologiquement, on n'est pas tellement fait.
Alors, puisque vous nous parlez d'une histoire d'une dame qui avait 80 ans, je vous propose de plonger encore plus loin dans l'histoire avec Agnès Valch que nous avons au téléphone. Bonjour.
Oui, bonjour.
Donc, vous avez écrit l'histoire de l'infidélité en expliquant que c'est vrai que le roi a toujours eu des maîtresses, mais que la femme a pourtant toujours été coupable et même punie jusqu'à la loi sur le divorce en 1884 et que même, on le disait, la législation sort l'adultère qu'en 1975.
Oui, exactement. C'est-à-dire que, comme le disait l'une de vos intervenantes, l'adultère, c'est quelque chose de qui a trait au genre. Hein. C'est-à-dire que les femmes, du fait qu'elles portent la vie et qu'elles puissent donner naissance éventuellement à des bâtards, sont extrêmement contrôlées. Et donc, la législation a toujours été extrêmement dure vis-à-vis des femmes. Et la loi a traqué l'adultère féminin tout au long de l'histoire, et y compris dans notre pays, qui pourtant avait une législation relativement agréable, je dirais, par rapport à d'autres pays.
D'ailleurs, quand on parle de loi, l'un des premiers textes de loi qu'on a découvert, c'est le code d'Hammurabi, qui est un code égyptien.
Sûr.
Et là, qui disait qu'il fallait s'en remettre au jugement de Dieu pour savoir si la femme était coupable d'adultère. Oui. On la jetait dans l'eau. Si elle se noyait, c'est qu'elle était coupable. Si elle arrivait à s'en sortir, c'est qu'elle était innocente.
Il fallait apprendre à nager très vite.
Il fallait apprendre à nager très vite.
Oui. Non, mais alors, dans notre pays, en France, en tout cas, sous le régime des rois absolus, les rois, effectivement, avaient des maîtresses et eux se permettaient tout ce qu'ils voulaient. Les femmes qui étaient pouvaient être traînées devant les tribunaux par leur mari exclusivement, et si elles étaient reconnues coupables, elles finissaient leur vie dans un monastère, c'est-à-dire qu'elles étaient en fait je dirais réduites à un état qui était l'état de la religieuse qui devait faire vœu de chasteté. Donc on la stigmatisait bien de ce point de vue. Puis les choses évoluent et changent, notamment avec l'introduction du divorce, parce que l'introduction du divorce entraîne l'idée que le mariage est aussi quelque chose de sentimental, hein, qu'il n'y a pas simplement une institution qui règle la dévolution des biens, qui règle les héritages, qui règle la sexualité des adultes, mais qu'effectivement on peut rompre une union si celle-ci s'avère effectivement très malheureuse.
Alors, c'était très 1884, la première loi sur le divorce en tout cas.
Non, la première loi sur le divorce c'est 1792. C'est les révolutionnaires qui instaurent un divorce tout à fait exceptionnel, puisqu'il faut attendre le XXe siècle pour qu'on retrouve en gros le même schéma, un divorce par consentement mutuel, etc. Et après, durant pratiquement la grande majorité du XIXe siècle, le divorce est interdit. Et puis en 1884, il est réintroduit. Et à ce moment-là, l'idée perce donc d'un mariage plus sentimental, l'idée aussi que l'homme n'est pas propriétaire de sa femme et qu'après tout, eh bien, si elle divorce ou si lui divorce, eh bien, il en aura une autre. Et donc, je dirais, les mentalités se mettent à changer et la répression d'adultère s'adoucit. Alors, je vous rassure tout de suite, les femmes qui ont été condamnées au XVIIe ou XVIIIe siècle ne sont pas très nombreuses, parce que pour prouver un adultère, même féminin, c'était quand même très difficile, que ce sont des affaires qui sont passionnantes et qui deviennent même des affaires politiques, où on voit des avocats qui essaient d'acquérir une popularité, qui sont parfois même devenus des hommes politiques, donc toute référence à l'actualité.
On ne cite pas de nom.
Voilà, hein, voilà. Et donc ça, c'est assez extraordinaire. Et tout ça aboutit finalement au débat que nous avons ce matin, c'est-à-dire que si on peut réfléchir à l'infidélité, non plus en termes d'adultère, mais d'infidélité, en se disant est-ce que c'est une infidélité sexuelle, affective, morale, etc., on peut être infidèle simplement sentimentalement ou simplement, vous voyez, toutes ces questions sont possibles parce qu'il y a eu cette lente évolution qui permet désormais de traiter différemment l'infidélité.
Ce sont ces questions qu'on se pose évidemment ce matin et je voyais François de Saint-Gly, pendant que vous parliez, secouer la tête vigoureusement. Alors, que se passe-t-il ?
Non, là c'était parce que en fin de compte, le rétablissement à la fin du 19e est quand même petit et donc la femme va rester, le divorce par faute reste central. Non, ce qui est, moi, je suis en train de finir un livre sur la séparation et le divorce. En fait, ce qui me frappe, c'est le fait que c'est pas une idée a priori. Hein, j'ai découvert dans les entretiens, l'infidélité va être un argument qui va être utilisé. Je me place exclusivement du point de vue des femmes. Hein. Ici, donc je fais l'inverse de ton chemin. Mais va être utilisé entre guillemets comme un argument. C'est-à-dire si la femme découvre l'infidélité et que elle estime la relation assez satisfaisante, elle va faire éventuellement une petite pause, enfin bon, etc. Si en même temps, il y a ce qui est, de mon point de vue, la cause principale du mécontentement conjugal, qui est la monotonie, alors s'il y a monotonie et infidélité, j'allais dire, entre guillemets, elle en profite. Et elle en profite, oui, puisque à ce moment-là, elle va pouvoir lui dire plus explicitement. Ça n'est pas si simple que de dire à l'autre, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est plus facile. Peut-être je me trompe, hein, mais presque plus facile de dire à son conjoint t'es infidèle que t'es monotone.
Je m'ennuie avec toi, oui, c'est
oui,
très
non,
dur.
Non,
de
non,
dire
non,
ça,
non,
oui.
Mais je parle sérieusement. Et donc, oui. Quand on peut avoir une preuve et tout, en tout cas, les femmes s'en saisissent, mais elles s'en saisissent que lorsqu'il y a eu les conditions, quand même en partie.
Moi, ça va un peu dans le sens des appels qu'on reçoit. Il y a notamment Eric qui dit a trompé sa femme plusieurs fois sans vraiment chercher à le faire. On ne sait pas bien ce que ça veut dire. Claire qui nous dit pour moi, l'infidélité commence par la mauvaise conscience. Et puis, on a aussi des témoignages anonymes. Alors, c'est assez curieux. Hein, l'anonymat est requis dans ces cas-là. N'est-ce pas d'abord une affaire de fidélité à soi-même ? N'y a-t-il pas une trop grande part d'ego mal placée dans le rapport difficile à l'infidélité ? Et puis, un autre anonyme qui demande si ce débat est inspiré par une affaire célèbre dont on parle beaucoup en ce moment, la réponse est non. Et qui critique aussi la vision étroite des médias qui nous montre un seul modèle du couple. Combien de couples sont complices dans leur sexualité et acceptent les fantaisies de l'autre? On l'a déjà vu en partie avec Françoise Saint-Père et Agnès Wahl. Je voulais rajouter quelque chose.
Je voulais simplement dire que l'évolution a été quand même très lente au cours du XXe siècle et c'est vrai que cette loi sur le divorce n'explique pas tout, mais enfin, tout de même, les peines les plus infamantes tombent à ce moment-là, donc c'est quand même important pour les femmes, même s'il faut attendre 1974 hein, pour que les choses se dérident. Et à partir de là, on peut traiter effectivement, il peut y avoir 1000 couples possibles, il peut y avoir effectivement des couples qui se forment de manière, je dirais, volontaires, et c'est plus la société qui les forme, mais ce sont les gens qui eux-mêmes se choisissent leur mode de vie en couple, etc. Donc c'est à ce moment-là qu'effectivement on peut vraiment discuter de l'infidélité et de la forme que cette infidélité peut prendre.
C'est donc d'infidélité qu'on parle ce matin avec le sociologue François de Saint-Gly, l'historienne Agnès Walsh, la romancière Françoise Saint-Père, le psychiatre Philippe Brenneau. On retrouve d'ailleurs une bibliographie incomplète de tous les invités sur le site de l'émission. Ça vous dérange, franceinter.com. Et nous, on se fait plaisir en écoutant Stone Rollin' Raphaël Sadik. She took me in, she come on. Raphaël Sadik, Stone Rollin, c'est un album France Inter et une tournée aussi France Inter, parce que Raphaël Sadik, ce sera demain à Cognac et puis après-demain à Vienne pour le festival jazz à Vienne et Carcassonne le 26 juillet prochain.
Ça vous dérange ? 01 45 24 7000 ou sur franceinter.com.
Alors, je sais pas, pendant que Françoise Saint-Père et Philippe Bruno continuent, je sais pas si j'ai le droit de le dire, vous étiez en train justement de parler tous les deux, de vous raconter vos petites histoires et Françoise Saint-Père vous racontiez que...
Je ne vous ai dit que je ne voulais pas raconter ma vie,
mais le coup de la voiture, c'était assez intéressant.
Non, mais je ne veux pas raconter ma vie, mais par contre, je voulais juste dire une chose, c'est que je ne suis plus la seule.
Mais il faut, dans ce cas, faire attention où on se dit les choses, hein, j'ai les oreilles qui traînent, allez-y.
Je voulais dire aussi que le Pluriamour s'est beaucoup développé ces 10 dernières années, il y a 10 ans quand j'ai écrit le livre...
Le fait qu'une femme ose dire aimer plusieurs hommes,
c'était, ça aurait été un homme qui m'a aimé plusieurs femmes, ça n'aurait ému personne. Par contre, aujourd'hui, 10 ans après, il y a quand même des sites pluriamour.info en France, .be en Belgique, .ca au Canada, il y a la Poly Pride aux États-Unis. Donc on sent qu'il y a une recherche, et qui est une recherche beaucoup moins sexuelle qu'affective. Vous parliez tout à l'heure que d'accepter les désirs sexuels autres, mais on s'aperçoit que, notamment du côté des femmes pluriamoureuses, c'est essentiellement une recherche affective, et de plus en plus chez les hommes jeunes aussi. Je suis d'accord avec Philippe Bruno quand vous avez montré le besoin d'affectivité et d'amour des hommes jeunes. Et bien, c'est ce qu'on retrouve énormément dans ce mouvement-là.
François de Singly, vous vouliez réagir.
Non, mais c'est justement, prenons le titre du livre de Françoise, Aimer plusieurs hommes. Et ça, je pense que c'est la catégorie aimer, comme faire l'amour et tout, est une des choses... moi, en tout cas, dans les entretiens, pour une part, quand les gens sont... entre guillemets, infidèles, en tout cas, disons, ont des relations sexuelles. Je pense même dans les journaux féminins, parce que tout l'été, on va en avoir. Le L de cette semaine nous commence déjà. C'est ma vie. Donc là, c'est avec, d'ailleurs, un ouvrier étranger. Et il parle pas. Donc on fait l'amour, mais au sens sexe. Par exemple, si on prend l'exemple de cette femme. Alors ça se développe. De mon point de vue, par rapport à mes enquêtes, hein, là c'est pas je.
Mais le fait d'aimer plusieurs hommes,
le fait d'avoir
du sexe sans amour,
c'est dans le registre de la dissociation de dire je peux avoir aussi une vie sexuelle à côté. Ça n'est pas nécessairement. Parce que c'est tout le problème, je reviens avec l'infidélité, l'infidélité sexuelle, l'infidélité amoureuse. Aimer plusieurs hommes, très honnêtement pour moi, par rapport à mes enquêtes, alors qu'on n'a pas les mêmes, mais je fais quand même des enquêtes depuis maintenant 30-40 ans, je ne trouve pas que ce modèle se développe. L'idée que effectivement il peut y avoir des relations. Alors c'est non mais je ne conteste pas, mais à ce moment-là on va dire un amour de vacances. Mais par exemple au mois de tout l'été les féminins vont dire vous pouvez au mois de septembre, ça me fascine toujours. C'est il n'est pas question que ça soit que vous le prolongiez tout. Donc je pense pas qu'on soit dans le modèle de aimer plusieurs.
Alors ce que je trouve intéressant, Philippe Renaud, et puis après on prendra Patrice qui nous appelle de Poitiers.
Ce que je trouve intéressant c'est l'évolution parce que Françoise, moi je crois que c'est très bien la façon dont vous expliquez ce polyamour que vous vivez, que d'autres vivent, qui est dans la continuité du mouvement féministe.
Tout à fait.
Et qui est une continuité à un certain moment, presque dans la parité, parce que ce n'a pas été le cas de ceux qui le vivaient, mais en disant, mais bazar, pourquoi depuis des siècles, les hommes auraient plusieurs femmes et les femmes ne pourraient pas en avoir. Et ça permettait de montrer, et ce qui était vrai, que des femmes pouvaient avoir des pluriamours. Ok. Moi, quand je regarde la population, qui sont les gens que je vois tous les jours, c'est-à-dire des couples de tous les âges, et puis c'est 2500 hommes et je viens de finir 3000 femmes, et je vous dirai deux ou trois idées là-dessus, mais je vois très bien, on voit par exemple parmi les hommes se dégager deux types de couples sur cet ensemble. Il y a une majorité de couples, plutôt parmi les jeunes, qui sont très ancrés, beaucoup plus que je ne l'entendais il y a 20 ou 30 ans, sur la fidélité.
Je rappelle juste, pour que ce soit bien clair, que votre enquête concerne les hommes en couple hétérosexuel.
Exactement,
et vous en avez donc
interrogé
2184, je crois, de mémoire.
Oui, exact. 153, mais enfin, c'est pas grave, pour les 40 autres. Par contre, Thomas, la chose intéressante, c'est qu'on voit aussi apparaître, dans un groupe moins important de couples autour de 50 ans, c'est-à-dire des couples qui ont vécu la révolution sexuelle et qui sont beaucoup plus souples, qui étaient ce qu'on a appelé le couple ouvert pendant un temps. Et on voit très, très nettement s'opposer cela. Et lorsqu'on voit les critères de fidélité, ces couples de la cinquantaine qui sont plus ouverts acceptent l'infidélité ou acceptent. S'il y a une accroche à la fidélité, à 75%, elle peut être acceptée. Par contre, à 80%, elle est refusée par les couples plus jeunes.
Mais ça veut dire quoi ? Donc que les plus jeunes sont plus fidèles que les plus âgés ?
Non, c'est-à-dire que ça veut dire qu'ils seraient, en tout cas pour eux, les valeurs de fidélité sont plus importantes. Et dernier mot là-dessus que je trouve très important, parce que tout à l'heure Agnès Walsh a parlé d'adultère. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'adultère est une espèce en voie de disparition. Contrairement à ce qui a été écrit, notamment un livre écrit il y a quelques années sur l'adultère. Oui, l'adultère est une espèce en voie de disparition. Le couple a beaucoup évolué. Il y a du mariage, il y a des couples de fées, il y a autant, même plus aujourd'hui, de couples non mariés ou non paxés avec un lien social. Eh bien, parmi tous ces couples, on voit beaucoup plus de liaisons qui peuvent s'amorcer parce que, du fait des modes de communication, de l'ouverture de la société, on se rencontre très facilement. Mais ces relations durent beaucoup moins qu'autrefois. C'est-à-dire qu'on voit très bien que dans les 6 prochains mois, où vont se défaire le couple et vont s'amorcer 2 nouveaux couples, par exemple, où la personne, homme ou femme, rentre dans le couple. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de toutes petites amorces, mais l'adultère qui démarre en double vie pendant longtemps, ça existait il y a 50 ans, ça existe peu ou moins aujourd'hui.
Voilà. Alors ces mails qu'on reçoit sur franceinter.com, un mail encore anonyme, à mon sens, il me semble que l'infidélité est une paresse. Être fidèle, c'est exigeant, difficile, mais ce n'en est que plus beau. Et puis un autre témoignage par mail, juste un témoignage. Nous, ça va, nous sommes très heureux, nous avons 52 et 56 ans, 5 enfants, quelques petits-enfants. Et une inquiétude, sommes-nous différents ou seuls dans notre cas ? Et puis nous avons...
On se demande, sommes-nous normaux ?
Sommes-nous normaux ? Nous avons... Oui, oui, rassurez-vous. Nous avons Patrice aussi qui nous appelle de Poitiers. Patrice, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous vouliez réagir, Patrice ? Vous avez la sensation qu'on a mal défini ce mot de fidélité, alors ?
Disons que...
On cherche plutôt d'ailleurs à définir l'infidélité aujourd'hui, plus que la fidélité. C'est peut-être pour ça.
Oui, non, mais forcément, il faut bien définir l'un pour définir l'autre. Enfin, je pense surtout qu'il y a deux conceptions derrière la notion de fidélité. Parce que pour aller vite, je dirais il y a une notion d'exclusivité et une notion de longévité. Or, les deux conceptions ont tendance un peu à s'opposer. Ça a été dit, la notion de fidélité, elle renvoie à une double angoisse, quoi. Côté masculin, c'est l'angoisse de la filiation. Est-ce que c'est bien moi le père ? Côté féminin...
Moins aujourd'hui, quand même. On a quand même beaucoup plus de facilité aujourd'hui de savoir si on est père ou
non,
pas.
Non, mais je parle l'origine...
Ah, d'accord.
Je signale que les tests de paternité sont interdits dans le mariage.
Féminin, donc c'est la sécurité économique.
D'accord.
C'est-à-dire que si l'homme part avec quelqu'un d'autre, la femme se retrouvait toute seule. Mais ça, c'est passé. Ça, c'est la structure patriarcale ancienne qui a été bouleversée. Et c'est aussi pour ça qu'on remet en cause la notion de fidélité aujourd'hui. Ceci étant, j'entends parler les différents intervenants sur monogamie, polygamie ou ainsi de suite. Mais en fait, est-ce qu'on est...
Pluriamour, dit-on ici.
Dans l'hypocrisie, parce qu'avec l'essor du divorce, on est dans une polygamie successive.
Oui,
c'est serial monogame.
Moi je suis en opposition.
François de Saint-Guy, donc sociologue,
institutionnel et social d'avoir plusieurs partenaires.
Excusez-moi,
en même temps.
Est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît ? Ce que je veux dire, c'est que sous couvert de pseudo-monogamie, avec ce mot fidélité qu'on utilise un peu n'importe comment, on voit bien que dans la réalité, sauf exception, parce qu'il ne faut jamais généraliser, ça ne tient pas. C'est-à-dire que, alors on appellera ça effectivement l'adultère, la tromperie, ou ainsi de suite. Au fond, qui trompe quoi ? C'est-à-dire qu'on se trompe d'abord soi-même sur un engagement qui n'était pas tenable, par exemple, ou qui était absurde. Moi, je pense que, dans la vie, on réussit une vie, ça a été dit par différents intervenants, la vie de couple, par exemple, ou en tout cas le contrat qu'on passe avec quelqu'un, il a d'autant plus de chances de réussir s'il est lucide. C'est-à-dire que si on commence par partir sur un principe que ça sera éternel et exclusif, aujourd'hui, on a énormément de chances de se casser la gueule. En étant un minimum plus réaliste, parfois on arrive beaucoup plus facilement à construire. Ça a été dit.
D'accord. En tout cas, je vois, Patrice, que mes trois intervenants qui sont là avec moi en studio ont levé la main en même temps pour répondre à vos propos. On va commencer par Françoise Saint-Père.
Oui, effectivement, je crois que le couple, c'est compliqué parce que c'est d'abord une opposition d'égo, c'est-à-dire deux personnes qui veulent continuer à exister tout en ayant une vie commune. Donc ça implique forcément de renoncer à une part de soi et en même temps de vouloir la récupérer. Et c'est pour ça qu'il y a des rapports de force énormes dans les couples. Et pourquoi les jeunes, comme vous disiez, sont plus attachés à l'idée de fidélité sexuelle? C'est justement parce que jusqu'à un certain... Il faut du temps pour maturer son ego, du temps pour avoir confiance en soi et confiance en l'autre. Donc la moindre infidélité sexuelle est vécue comme une tromperie ou comme une blessure beaucoup plus grave. Quand on a 50 ans et 25 ans ou 30 ans de vie commune, on sait ce qu'on a construit ensemble, on sait pourquoi on est heureux d'être ensemble, on sait aussi que le sexe est moins important puisque ça s'est apaisé. Et donc c'est tout à fait logique que l'infidélité sexuelle soit moins importante.
C'est ce que nous a dit Jean-Claude qui nous a téléphoné pour nous dire qu'il a eu beaucoup de maîtresses, qui ne s'est pas gêné, dit-il, mais qui n'a eu le sentiment de tromper sa femme qu'avec une seule femme.
Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que dit Fabrice, il y a...
Patrice, pardon.
Désolé. Oui, vous avez dit quelque chose de très bien. C'est en fait, il y a une inquiétude. Parce que derrière cela, le couple, et je le vois, c'est une des questions, j'ai posé 128 questions à ces hommes, c'est l'une des questions qui me paraissait importante. Qu'est-ce la première valeur qui vient aujourd'hui pour les hommes, pour les femmes, c'est le couple. Il y a 50 ans, c'était le travail du père de famille, il fallait la subsistance des enfants, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est le couple, mais pourquoi ? Bien devant la famille. Parce que j'ai la crainte que mon couple s'arrête. C'est-à-dire, j'ai très peur qu'il y ait du désamour, qu'il y ait de l'éloignement, parce que je le vois autour de moi, parce que on sait la fragilité de ce lien, qu'il y a un lien social ou non. Le lien le plus important, c'est un lien moral. C'est même pas le lien charnel, c'est le lien affectif et moral. Et très souvent, on sait la fragilité. Donc, la fidélité va être un élément qui pose question, parce que si elle n'est plus là, eh bien, on a très peur pour l'éloignement, le désamour et, d'une certaine façon, la rupture du couple. Moi, je crois que derrière cette idée d'infidélité, il y a la crainte.
Donc on a plus peur de la fin du couple que
du désamour. Parce qu'en fait, ça va toucher au sentiment.
C'est plutôt rassurant ce que vous nous expliquez, je trouve.
Oui, mais je crois que les gens, la plupart des gens, sont rassurants quand on les écoute de près, je crois.
Ça veut dire quoi, écouter de près?
Quand on les écoute, comme François le fait, ou nous le faisons, et sûrement...
Avec les lettres que je reçois aussi.
Françoise aussi, mais quand on va écouter... en tête à tête, en dialogue, les gens, lorsqu'ils parlent, en fait, sont beaucoup moins extrémistes. Alors, ce qui est compliqué, c'est que dans les médias actuels, et notamment sur le net, bien sûr qu'on peut trouver toutes les opinions. Oui, on trouve plein de sites de multipartenariat ou de polyamour, mais c'est vrai que dans la réalité, il y a peu de gens qui vont le pratiquer, parce que c'est une conviction personnelle.
C'est vrai, mais ça a eu un avantage, c'est que, par exemple, quand je reçois la lettre d'une femme qui me dit « Oh là là, j'ai découvert que mon mari me trompait », au lieu d'avoir envie de le quitter tout de suite, comme ça se passait il y a encore quelques années, elle dit « Comment je pourrais gérer ça ? Parce que je tiens à ce que nous avons construit ensemble. » Et ça, je trouve que c'est déjà un sacré progrès.
Et que ça a changé. François de Singly.
Oui, mais c'est justement, non, je pense qu'en fait... Il n'y a pas qu'en politique, l'insécurité est une chose absolument centrale. Et que la fragilité du couple renvoie à la fragilité de soi. Et donc, que justement, je veux dire, pour ça qu'on peut dire je veux être fidèle et tout, s'il y a une vraie relation, on va quand même le faire parce qu'on risque de trop perdre. Mais mon désaccord avec Patrice, c'était le fait que moi, j'ai le sentiment qu'actuellement...
Patrice, l'auditeur qui nous a
appelé. Oui, qu'il y avait... que les gens, même au moment du mariage, au moment de l'installation, ils veulent bien que ça dure idéalement, mais personne ne dit ça va durer toujours.
Ça, tu as complètement raison, et c'est même
donc, non, mais juste, je voudrais finir. Ouais, et donc, en fin de compte, pour moi, il y avait, j'allais dire, exclusivité et longueur, longueur en termes de durée. En fait, j'allais dire paradoxalement, l'exclusivité sexuelle pendant le temps de la relation... a augmenté un peu parce que de toute façon, de l'autre côté, j'ai presque un vase communicant. Donc, je sais que ça ne durera pas toujours, mais tant qu'on est ensemble, si possible, alors tu dois quand même, entre guillemets, rendre tous les services, pour parler un peu brutalement. Et donc, c'est justement, moi, je pense que la remontée de la valeur fidélité dans les jeunes générations vient du fait que les jeunes générations savent que ça ne sera pas toujours et que tant que ça, il faut au moins que le couple serve à me sécuriser pendant le temps. On sait qu'on n'aura pas forcément un travail pour toute la vie, donc je suis d'accord par rapport à ce rapprochement, mais ça ne veut pas dire pour autant que je veuille, moi, tous les jours, avoir une insécurité totale. Donc je préfère quand même être sécurisé aujourd'hui, même si je ne suis pas fonctionnaire.
Quelque chose qui pourrait donner des envies à plus d'un, c'est Dancing with Madonna. C'est le titre de cette chanson d'Arthur Ashe, midi 54 sur France Inter.
La vie, c'est le chaos. La vie, c'est le stress. La vie, c'est la panique. La vie, c'est le cirque. Alors quand je rentre le soir, j'ai besoin d'un peu de douceur. Mais si par malheur j'allume le téléviseur et que la Madone m'apparaît, oh miracle, je me lève, je chante, je danse. I am dancing, oh dancing, oh dancing, oh dancing. C'est le spleen. La vie, c'est la bataille. La vie, c'est le choc. Alors quand je rentre du travail, j'ai besoin d'un peu de calme. Mais si par malheur j'allume le téléviseur et que la Madone m'apparaît, oh miracle, je me lève, je chante, je danse. I am dancing.
Pendant qu'on danse avec Madonna, le débat continue entre Françoise de Saint-Glis, sociologue, Philippe Brenot, psychiatre, et Françoise Saint-Père, romancière. L'émission touche à sa fin, alors je ne sais pas, peut-être qu'il faut trouver, évidemment dans ces cas-là, toujours un mot de conclusion. Je vais vous laisser la parole, Françoise Saint-Père, mais est-ce qu'il y a l'idée de l'infidélité comme, de toute façon, une épreuve, un mal nécessaire, en tout cas, quoi qu'il arrive, quelque chose qu'il faudra traverser ?
Non, je crois considérer qu'on fera beaucoup de progrès quand on ne pensera pas que l'exclusivité sexuelle est un signe d'amour et qu'on pensera que l'amour, c'est être là quand l'autre en a besoin. Et l'autre, la seconde conclusion, c'est que ne pas donner de modèle, ne pas imposer les choses, mais laisser les gens s'interroger, parce que c'est ça qui est frappant chez les plus amoureux, c'est qu'ils s'interrogent sur le lien, ils en discutent beaucoup et finalement ça rompt la monotonie parce que ce sont des gens qui en permanence réactivent leur relation. Et je pense que ça, c'est pas mal.
Eh bien, merci à tous les quatre, avec Agnès Valch au téléphone, d'avoir participé ce matin à Ça vous dérange. Demain, nous consacrerons l'émission au théâtre populaire avec l'ouverture du Festival d'Avignon, savoir si Avignon reste encore dans l'esprit de son fondateur Jean Villard, donc un théâtre populaire. Merci à toute l'équipe, je crois qu'on est un petit peu en retard et qu'il est l'heure de filer à la bourse. Salut, à demain et bonne journée sur Inter.